Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
La colère des producteurs de reportages, la blague de trop, un nouveau média, un manchot qui chante et une enfant qui gagne.
Et non l'inverse, on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
Bataille de poids lourds hier, Titanic sur TF1 face à Skyfall sur France 2. Au bout du compte, c'est James Bond qui s'est largement imposé. 4 900 000 téléspectateurs sur France 2 et 21,5% de part d'audience. TF1 n'est que 3e avec Titanic. 3 500 000 téléspectateurs, 18,7% de part d'audience, mais l'honneur est sauf, 31% et la première place auprès des femmes de moins de 50 ans. Entre les deux, c'est France 3 qui est deuxième avec les enquêtes de Vera, 3 800 000 téléspectateurs au compteur, soit 15,6% du public.
Ça, c'était pour hier soir et samedi soir, puisqu'on est le week-end.
Voilà, la course a été relativement serrée, mais TF1 l'a emporté avec la finale de Masked Singer qui a signé son record de la saison, 5 400 000 téléspectateurs au compteur, soit 24,3% du public et 41% des femmes de moins de 50 ans. France 3 n'était pas si loin derrière avec Mongeville en inédit. La série policière pointe à 5 100 000 téléspectateurs, soit 19,6% du public. Et France 2 n'a pas à rougir grâce au rugby. France-Italie a fait frémir 4 200 000 personnes pour 16,9% de part d'audience.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la tribune de journalistes et de dirigeants de médias contre la validation des reportages par les autorités.
Oui, c'est une tribune qui est parue ce week-end et qui dénonce de nouvelles entraves à la liberté d'informer. Dans la ligne de mire des signataires, les conventions que les sociétés productrices de reportages doivent signer pour pouvoir filmer les forces de l'ordre et plus largement les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités concernées réclament un droit de visionnage avant diffusion. Le contenu ne doit notamment pas être choquant ou porter atteinte à leur image. Inacceptable selon les signataires qui rappellent que chaque chaîne et chaque société de production assure déjà un contrôle en amont, qu'il soit juridique ou déontologique en ce qui concerne les reportages qui sont produits et diffusés.
Et cette contestation intervient alors que les médias sont déjà mobilisés contre la loi dite sécurité globale.
Oui, et particulièrement contre son article 24 qui veut limiter la capacité des journalistes à diffuser l'image des forces de l'ordre. Alors ces conventions existent depuis plusieurs années déjà, mais les signataires assurent que ce sont de nouveaux alinéas de ces conventions qui posent problème. Il donne au pouvoir public l'autorisation de modifier le reportage si son contenu n'est pas conforme à l'éthique ou à la déontologie. Des termes très flous qui mettent à mal, selon eux, leur capacité d'informer.
Le monde de la presse perd l'un de ses grands noms.
Oui, Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé ce week-end des suites du Covid. Il avait 83 ans. C'est lui qui, en 1967, avait créé le magazine L'Expansion. Après avoir commencé sa carrière aux Échos ou à L'Express, journal lancé par son frère Jean-Jacques Servan-Schreiber. Plus récemment, en 1997, il avait racheté Psychologie Magazine, qu'il avait considérablement développé. Le tirage était passé de 75 000 à 350 000 exemplaires en quelques années. Bernard Pivot, avec qui il avait créé le magazine Lire en 1975, lui a rendu hommage sur Twitter. « J'ai toujours été impressionné par sa capacité à innover ou rebondir, sa puissance de réflexion et d'organisation, ses jugements, son calme », a écrit l'ancien présentateur d'Apostrophe.
Le Focus Média du jour, c'est un nouveau média en ligne créé par Bernard de la Villardière.
Il s'appelle Néo, c'est une nouvelle marque 100% vidéo qui sera accessible sur tous les réseaux sociaux. Plusieurs types de formats sont attendus, des formats magazine ou d'actualité, mais aussi des interviews, des portraits, le tout raconté en 3 à 5 minutes. Parmi les vidéos déjà publiées, un gros plan sur des bonnes sœurs passées expertes dans l'art de faire du fromage, des conseils cinéma ou encore une interview de cobaye du vaccin anti-Covid. Mais face à Brut, Loopsider ou encore Combini, Néo veut se différencier. Le média a une ambition, communiquer de l'énergie positive et redonner la fierté d'être français. Bernard de la Villardière veut en finir avec ce qu'il appelle l'autoflagellation permanente, comme il l'a expliqué à Louise Bernard.
Un média national, généraliste, qui cultive la proximité, qui met en valeur les initiatives locales, les engagements, les projets. Tout le tissu des paysans, des artisans, des petits chefs d'entreprise dans les territoires, avec l'envie d'insister sur le commun, sur ce qui nous rassemble, sur le fait qu'on est quand même un pays formidable.
Pour financer Néo, Bernard de la Villardière a noué un partenariat publicitaire privilégié avec le groupe M6. Le lancement officiel a lieu ce lundi, mais une petite dizaine de vidéos sont d'ores et déjà en ligne.
On ne plaisante pas avec l'émission L'Heure des Pros.
Sébastien Thoen a été viré de Canal+, après avoir participé à une parodie de l'émission de Pascal Pro qui est diffusée sur CNews. Une parodie dans laquelle il se moque du journaliste et de son émission de débat. Selon le site Les Jours, elle n'aurait pas du tout plu à Vincent Bolloré, le grand patron du groupe Canal, alors qu'elle avait beaucoup amusé Pascal Pro lui-même. Journaliste journaliste sportif sur Canal+, Sébastien Thoen avait enregistré cette parodie dans le cadre d'une campagne de pub pour le site de paris en ligne Winamax. La vidéo avait rencontré un joli petit succès à sa mise en ligne avec 300 000 vues en une semaine. Mais depuis le licenciement de Sébastien Thoen, le compteur de vues a explosé pour atteindre 1 600 000 visionnages. Un joli coup de pub pour Winamax.
C'est ce qu'on appelle l'effet stressant. On n'aurait peut-être pas parié là-dessus, mais la France a remporté une compétition internationale hier.
Oui, ça faisait 43 ans qu'on l'attendait. La France a gagné l'Eurovision, enfin presque. Hier, en Pologne, la jeune Valentina a remporté l'Eurovision Junior face à 11 autres pays. La petite fille de 11 ans, révélée dans The Voice Kids, a séduit le jury, mais aussi le public, avec son titre « J'imagine ». Voilà, la victoire a été très nette avec 200 points au compteur, soit 48 de plus que son plus proche concurrent, l'Azerbaïdjan, et 57 de plus que l'Espagne qui finit troisième. Alors je précise que l'Eurovision Junior, c'est depuis 2003, hein, c'est beaucoup moins ancien que l'Eurovision. Ouais. L'an dernier, la Française Carla avait dû se contenter, elle, de la cinquième place avec son titre qu'on avait aussi beaucoup entendu, Bim Bam Toi.
Et en parlant de vainqueurs, on en parlait tout à l'heure dans les audiences, Masked Singer, ça s'est terminé samedi, mais qui a remporté cette saison 2?
Eh ben, c'est le manchot qui s'est imposé. Alors il faut avouer qu'il n'y a pas eu de vraie surprise quand la chanteuse Larousseau a retiré son masque. On se souvient d'elle, bien sûr, pour son énorme tube « Tu m'oublieras » qui a dominé les charts français à la fin des années 90. Et les enquêteurs et le public avaient reconnu sa voix. La chanteuse a expliqué à Louise Bernard ce qui l'avait poussée à accepter de participer à l'émission.
Ça permet aux gens de se recentrer sur l'essentiel même d'un chanteur, c'est-à-dire sa voix, son interprétation. C'est ce qui m'a séduit aussi dans ce programme. Et je suis très heureuse de ça parce que j'ai vu beaucoup de compliments, de gens qui m'ont redécouvert aussi, qui ont dit « c'est dingue, je savais que Larousseau chantait bien, mais elle m'a bouleversée avec cette interprétation. » Je suis très fière d'avoir fait « Tu m'oublieras », je le porte vraiment très fièrement. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais aussi qu'on écoute sans forcément me rattacher tout le temps à cette chanson-là. Et grâce au manchot, j'ai réussi à vivre ça.
Merci le manchot. Ce retour sous les projecteurs a permis à Larousseau de signer un contrat avec le label TF1 Musique. Elle sortira dès demain une reprise d'un titre qu'elle a interprété dans Masked Singer et avec lequel elle avait vraiment ému les enquêteurs. On écoute en exclu un tout petit aperçu de sa version de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine.
Mauvaise nouvelle pour les fans de déco, on change de sujet. Une émission emblématique vit ses dernières semaines.
La maison France 5 s'apprête à fermer ses portes. C'est ce qu'a révélé ce week-end le site puremedia.com. Après 17 ans d'antenne, le dernier inédit de l'émission présenté par Stéphane Thébault sera diffusé le 12 décembre jusqu'au début de l'été. France 5 proposera ensuite des rediffusions de la maison France 5 et la chaîne planche actuellement sur un nouveau programme de déco.
Et pourquoi France 5 arrête cette émission? Ça marchait plus?
Ça marchait plutôt pas mal. Près de 800 000 téléspectateurs le vendredi soir en prime, soit 3,4% du public depuis la rentrée. Mais depuis le couvre-feu, France 5 l'avait relégué le samedi après-midi pour proposer des vendredis soirs 100% spectacle. Selon Pure Média, la chaîne envisage de pérenniser cette programmation culturelle, ce qui aurait précipité la fin de la maison France 5.
Et à propos de culture, on termine ce journal avec une demande inattendue du ministre de la Culture britannique.
Il s'appelle Oliver Dowden et il souhaiterait que Netflix fasse une précision importante au début de chaque épisode de sa série The Crown. Voilà ce qu'il a déclaré au Mail on Sunday. C'est une magnifique œuvre de fiction, mais il devrait être très clair dès le début que ça n'est que de la fiction. Je crains que les générations qui n'ont pas vécu ces événements confondent la fiction et la réalité. Fin de citation.
On en avait justement parlé ici dans Culture Média. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias.